Le journal, présenté par Adrien Toffolé.
Bonjour à toutes et à tous. La colère, la violence et ses conséquences en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Pourtant, malgré les tensions, la mobilisation ne semble pas prête à se transformer en intifada, précision de Marine Vlahovic depuis Jérusalem. En Inde, l'opposition nationaliste au pouvoir a un nom depuis ce matin, un nom célèbre, Rahul Gandhi, héritier de la dynastie qui aura la difficile tâche de reconstruire l'historique parti du Congrès. Un Saint-Siège 2.0, ambition du pape François qui rénove toute l'organisation des médias du Vatican aujourd'hui. Week-end politique en France, avec le congrès du Modem, François Bayrou, réélu président hier, doit relancer son parti, mis dans l'ombre par celui du président. Puis l'anniversaire d'Emmanuel Macron à Chambord, qui laisse présager peut-être le retour des chasses présidentielles. Éclairage dans un instant de Charlotte Baris. Des rassemblements toujours plus violents en territoires occupés. Hier, 4 Palestiniens ont été tués et 160 blessés dans des heurts avec les forces israéliennes. Pourtant, les appels à manifester se succèdent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Aujourd'hui encore, ils sont appelés dans la rue, mais son ampleur est incertaine. La participation connaît depuis le début du mouvement de protestation une évolution en dents de scie. Alors comment interpréter cette mobilisation? Selon un récent sondage publié par un institut local, une large majorité des habitants de Cisjordanie et de la bande de Gaza condamne en bloc la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël par Donald Trump. Mais s'ils sont nombreux à souhaiter le retour d'une intifada armée, les conditions ne semblent pas réunies. Analyse de notre correspondante à Jérusalem, Marine Vlahovic.
C'est une condamnation quasi unanime. Selon un sondage publié cette semaine, plus de 90% des habitants de Cisjordanie et de la bande de Gaza considèrent que la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël est une menace directe pour les intérêts palestiniens. 44% déclarent même que le retour à une intifada armée est la seule réponse appropriée à cet affront. Une intention qui ne se concrétise pas sur le terrain. Khalil Shikaki est le directeur du Centre palestinien de recherche et d'études qui a réalisé ce sondage.
L'opinion est prête à supporter un soulèvement, mais c'est difficile dans un sondage de déterminer qui est prêt à y participer et nous n'avons pas posé cette question.
Et pour le moment, la rue palestinienne peine à se mobiliser. En cause, une certaine lassitude, mais aussi un défaut d'organisation du leadership palestinien.
La population ne fait pas confiance à ses dirigeants et ne les considère pas comme des dirigeants crédibles. Mais cela peut s'expliquer aussi par l'attitude de l'autorité palestinienne qui ne souhaite pas l'émergence d'un mouvement incontrôlable. Je pense que l'autorité palestinienne souhaite que la population exprime son opposition, mais elle veut que cette opposition reste limitée.
Et le grand perdant semble être Mahmoud Abbas, dont la cote de popularité plonge encore un peu plus. Ils sont désormais 70% à souhaiter la démission du président de l'autorité palestinienne.
Marine Vlahovic, il était déjà l'héritier de la dynastie des Nehru et Gandhi. Il en est aujourd'hui l'héritier politique aussi. Rahul Gandhi a officiellement pris la tête du parti du Congrès, chef d'une opposition indienne en lambeaux. Et la reconstruction ne sera pas simple face au BJP, le parti du peuple indien des nationalistes hindous, au pouvoir et plus fort que jamais. Précision de New Delhi du correspondant des RFI, Sébastien Farcy.
Le parti du BJP répand la haine entre les religions, ils divisent, nous rassemblons, ils allument le feu, nous l'éteignons. Les premiers mots de Rahul Gandhi comme président du parti du Congrès marquent les thèmes de son combat contre les nationalistes hindous du BJP vers une difficile reconquête du pouvoir. Sa formation de centre-gauche, qui a dominé la vie politique indienne depuis 70 ans, est aujourd'hui en lambeaux. Le Congrès compte moins d'un député sur 10 à la Chambre basse. Rahul Gandhi, sixième membre de la famille à prendre la tête du parti, a toujours été réticent à entrer en politique. Mais depuis quelques mois, il prend son devoir à bras le corps. Moins hésitant, plus percutant dans ses propos, il attaque le gouvernement nationaliste hindou sur des thèmes qui résonnent auprès des musulmans et des basses castes, les violences envers les minorités religieuses et le chômage. Cette nouvelle verve doit maintenant s'accompagner de propositions concrètes et d'une bonne stratégie d'alliance avec les partis régionaux s'il veut avoir une chance de revenir au pouvoir lors des élections nationales dans 18 mois.
Sébastien Farcy, un nouveau grand média qui regroupe radio, télévision, site internet et tout cela dans le but de créer des synergies, de faire des économies et de faire entrer ces entités dans la modernité. Je ne vous parle pas audiovisuel public français, Radio France ou France Télévisions, même si le sujet est d'actualité. Non, tout ceci aujourd'hui se passe au Vatican. C'est ce soir à 18h que sera lancé officiellement le site vaticannews.va, une rédaction unique, multilingue et multimédia bâtie sur la fusion de Radio Vatican, de CTV et des réseaux sociaux du pape. Cette réforme des médias a été engagée par le pape François, souverain pontife déjà connecté, mais qui souhaite faire entrer toute la communication du Saint-Siège dans le numérique mondial. Les précisions à Rome de Xavier Sartre.
Une interface rouge, une esthétique plus soignée et plus moderne que le site précédent de Radio Vatican, un nouveau nom surtout, mais toujours une même mission, porter la parole du pape. Dorénavant, la télé, la radio, les agences, les librairies et autres typographies du Vatican seront unies sous le vocable de Vatican News. Ne manque plus que l'intégration programmée l'année prochaine de l'Osservatore Romano, le quotidien historique du Saint-Siège, pour parachever ce travail de réorganisation. Si du point de vue administratif, il n'y a plus qu'une seule entité, dans les faits, le travail demeure peu ou prou le même. Informé via des émissions radio, des vidéos et des articles sur la vie du pape, de l'Église et du monde. Pour le moment, le nouveau site est disponible en 6 langues, dont le français. Il devrait à terme intégrer la trentaine d'autres langues existant sur le site précédent de Radio Vatican et qui en fait une exception dans le domaine médiatique international. La vraie nouveauté, l'accent mis sur les réseaux sociaux, Facebook essentiellement, pour tenter de séduire de nouveaux publics. Le risque pour les journalistes de Vatican News, c'est cependant de se couper d'une partie de leur auditoire en négligeant le vecteur radiophonique principalement en direction de l'Afrique. Mais l'ambition affirmée de la direction, c'est de devenir une Global Experience Agency, comme l'a conseillé le cabinet Accenture Interactive, partie prenante de cette réforme. Les voix du Seigneur seront plus que jamais numériques.
Il a été réélu facilement hier avec un score de dictateur, il faut l'avouer, 93,8% des voix. François Bayrou est à nouveau président du Modem qu'il a fondé il y a 10 ans. Alors il faut dire qu'il était le seul candidat. Victoire assez peu majestueuse d'ailleurs, moins de la moitié des 12 000 adhérents ont voté. François Bayrou et le Modem cherchent leur place dans la majorité depuis la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Pas facile d'émerger derrière La République En Marche, omniprésente. Le parti, le Modem, tient justement son congrès aujourd'hui et demain dans le 14e arrondissement de Paris, Frédéric Mettezo.
En mai 2017, ils sont 3 ministres Modem ou ex-Modem à des postes prestigieux, François Bayrou à la justice, Sylvie Goulard à la défense, Marielle de Sarnez aux affaires européennes. Mais un mois plus tard, ils sont balayés par l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires Modem. Et à la place, Jacqueline Gourault est nommée ministre auprès du ministre de l'Intérieur et Geneviève Darrieussecq ministre auprès du ministre de la Défense, deux portefeuilles de vice-ministres créés pour deux femmes d'expérience mais peu médiatisées. Aujourd'hui, le groupe Modem compte 47 députés contre 1 en 2012. C'est forcément mieux, mais c'est peu face aux 314 députés marcheurs. La preuve, lors des débats budgétaires, la plupart des amendements centristes ont été rejetés. Alors, le porte-parole du Modem insiste sur ses points forts, un appareil et un bon réseau d'élus locaux. C'est tout le contraire de La République En Marche pour l'instant. Et le pouvoir est aux petits soins. Édouard Philippe, Premier ministre, et Christophe Castaner, patron de La République En Marche, prendront la parole cet après-midi devant l'ombrageux François Bayrou.
Frédéric Mettezo sur un registre plus léger. Emmanuel Macron fête ses 40 ans aujourd'hui. Anniversaire organisé ce week-end au château de Chambord et que le président de la République, nous précisons, finance avec ses propres deniers. Alors laissons de côté le caractère people de l'événement puisqu'hier soir, en arrivant sur place, le chef de l'État a rencontré des chasseurs dont des lobbyistes qui ont participé dans la journée à une battue de régulation. Bonjour Charlotte Baris.
Bonjour.
C'est une pratique héritée de la monarchie que ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande n'assumait pas vraiment, mais avec laquelle Emmanuel Macron, on dirait, était visiblement en tout cas bien décidé à renouer.
Oui, selon le président de la République, ces battues de régulation sont un outil diplomatique et un instrument d'influence de l'État. Car il faut comprendre que derrière ce terme de battue de régulation se cache en réalité ce qu'on appelait jusqu'en 2010 les chasses présidentielles. Certains y voient une survivance monarchique, mais le candidat Macron, en mars dernier, n'avait pas hésité, devant les fédérations de chasseurs, à déclarer vouloir reconnaître ces chasses comme un élément d'attractivité représentant la culture française, une façon bien macronienne ou jupitérienne d'assumer un héritage très anciens régimes.
Et en réalité, Charlotte, ces chasses n'ont jamais vraiment disparu.
Effectivement, officiellement, depuis le changement d'appellation intervenu en 2010 sous Nicolas Sarkozy, les battues permettent de réguler les populations d'animaux sauvages dans les domaines de Rambouillet, de Marly-le-Roi et de Chambord. Une douzaine de chasses sont organisées chaque année, la plupart par les présidents des fédérations départementales de chasseurs, mais certaines d'entre elles réunissent toujours des invités triés sur le volet par l'Élysée. Des grands patrons du CAC 40 y côtoient des dirigeants des pays du Golfe, des hauts fonctionnaires et différentes personnalités politiques. C'est cette pratique que le nouveau chef de l'État ambitionne de réinstaurer et de rendre plus transparente.
Charlotte Baris, merci. Il est 12h40 sur France Culture, l'heure de retrouver la bulle économique avec Anne-Laure Chouin. Bonjour.